VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RCA, le procureur de la Cour pénale spéciale s'est exprimé publiquement à Bombari pour la première fois depuis sa prestation de serment le 30 juin. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la justice lundi. Yacouba Ouedraogo.
Le procureur de la Cour pénale spéciale, Toussaint Moutazini, a affirmé que les victimes meurtries de Centrafrique ne seront jamais abandonnées. Nous déclarons solennellement que le temps de la justice et de la vérité est arrivé et que très bientôt, la paix va changer de camp, a martelé le magistrat congolais. La Cour pénale spéciale est chargée d'instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003. Créée en 2015, elle n'est pas encore opérationnelle et devrait commencer ses enquêtes vers le mois d'octobre 2017. Avant cette période, cette cour doit œuvrer à mettre en place le règlement de procédures et de preuves et faire en sorte que tous les magistrats nommés s'installent à Bangui et prêtent serment. En mai, l'ONU a publié un rapport recensant 12 ans de crimes commis par l'armée ou des groupes armés en Centrafrique en 2003 et 2015.
En RDC, le président congolais Joseph Kabila a nommé le général Dieudonné Amouli en qualité de commissaire général de la police nationale congolaise. Il remplace à ce poste le général Bisengimana Charles. Dans la foulée, le commandement de la police de Kinshasa, capitale de la RDC, est confié au général Silvano Kasongo Kitenge en remplacement du général Célestin Kanyama, sanctionné par les États-Unis pour son rôle dans une opération de police contre des délinquants entre fin 2013 et début 2014, opération qui avait fait une cinquantaine de morts et une trentaine d'enlèvements, selon des ONG. Politique en Angola maintenant, Luanda a rejeté les conditions de l'Union européenne pour l'envoi d'observateurs aux élections générales angolaises du 23 août. Le point avec Solange Nyamulisa.
Les Angolais ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un leur impose sa façon d'observer les élections et leur donne des leçons, a fait savoir le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Tchikoti. L'invitation à l'Union européenne reste ouverte, a-t-il dit, ajoutant cependant qu'il n'est pas question d'accord spécifique avec les organisations désireuses d'avoir des observateurs électoraux. Selon le chef de la diplomatie angolaise, aucune organisation internationale n'a imposé les conditions d'observation des élections. Seule l'Union européenne, lorsqu'elle a été invitée à envoyer des observateurs, a suggéré la signature d'un mémorandum d'accord, a souligné Georges Tchikoti. L'Union européenne demandait notamment d'avoir accès à l'ensemble des bureaux de vote du territoire angolais. Les élections du 23 août doivent marquer des 38 ans de règne du président angolais José Eduardo Santos. Au pouvoir depuis 1979, le chef de l'État sortant, dont le régime réprime toute contestation, a annoncé qu'il ne se représenterait pas.
Au Cameroun, l'épiscopat catholique annonce son intention de porter plainte contre X pour assassinat dans l'affaire de la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, dont le corps a été repêché dans des eaux dans le pays début juin. Les évêques déclarent par ailleurs avoir réceptionné lundi le corps du défunt et décidé d'organiser ses obsèques les 2 et 3 août à Bafia, dans la région centrale où l'évêque officiait. Le 2 juin, le corps de Mgr Bala, 58 ans, avait été repêché dans la rivière Sanaga, plus de 48 heures après sa disparition. Le prélat a été brutalement assassiné, avait affirmé l'épiscopat le 13 juin. Au Nigeria voisin, des dignitaires de l'ethnie Kanuri, majoritaire au sein du groupe islamiste Boko Haram et aussi dans le nord-est du pays, ont exhorté les djihadistes à négocier avec le gouvernement nigérian pour mettre fin à leur insurrection sanglante. Pour le Forum des Anciens du Borno, un groupe d'influence de l'ethnie Kanuri, composé de militaires et de notables à la retraite, il est temps que les insurgés déposent les armes, qu'ils se repentent et rejoignent le reste de la société, 8 ans après le début du conflit qui a fait plus de 20 000 morts. Pour certains observateurs, l'appel lancé par les Anciens du Borno cache surtout leur crainte de voir les Kanuri marginalisés par rapport à d'autres groupes importants comme les Hausa, dans un contexte de forte rivalité interethnique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On reste en Afrique de l'Ouest. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, vante la bonne entente avec son voisin, le Burkina Faso. Un constat fait lundi à Ouagadougou en présence de son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kabore, pendant le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
Ce sommet réunit chaque année les présidents ivoiriens et burkinabés. Abidjan et Ouagadougou ont connu une période de froid entre 2014 et 2015 à la suite de la présence de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par la rue. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé. Les deux pays ont donc mis l'accent sur la coopération et le sommet de 2016 avait permis d'aplanir les différends. Par ailleurs, le Burkina dépend de son voisin pour l'accès à la mer ainsi que pour les importations. M. Ouattara a indiqué que la situation continuera de s'améliorer pour chacun des États, considérant qu'il est important que ce sommet puisse montrer aux populations respectives que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avancent.
En Guinée, un jeune chercheur s'engage dans la fourniture d'eau potable. Basé à Labé, à plus de 400 km de Conakry, la capitale, cet inventeur a fait installer plusieurs centaines de pompes à eau dans le pays. Plus de détails dans ce reportage réalisé à Labé par notre correspondant Zakaria Kamara.
Safatou, quartier périphérique de la ville. Ici, avoir de l'eau potable est un rêve pour de nombreuses familles.
Et puis tout le temps, Mélinda.
L'eau qu'on puise dans ce puits est impropre à la consommation. Si nous mettons de l'eau de Javel, ça tue les grenouilles. Après des recherches, Agui Boubari passe d'une maquette aux premières pompes à piston alternatif. C'est la création de fabrication de pompes à labé, FAPEL.
Nous avons aujourd'hui amélioré beaucoup les conditions de vie de cette population vulnérable par rapport à l'accès à l'eau et surtout les enfants qui parcourent des kilomètres à la recherche de cette denrée très rare.
L'entreprise fabrique deux types de pompes. Une pompe d'irrigation qui peut fournir jusqu'à 3000 litres d'eau par heure. Et l'autre à usage domestique qu'utilise cette mère de famille. Avant, il fallait faire des efforts pour tirer l'eau du puits. Mais depuis que nous avons fait installer cette pompe, notre puits est protégé et nous sommes soulagés. Dans le bureau de l'inventeur, plusieurs reconnaissances, mais aussi des prix, comme celui qu'il a reçu des mains du président français François Hollande à Paris à l'occasion de la France s'engage au Sud, ou encore le coup de cœur du jury de la start-up de l'année au Maroc. Des distinctions qui donnent des ambitions.
Nous avons déjà entamé le processus pour la certification de la pompe sur le plan national. Après la Guinée, c'est les autres pays qui viendront, comme le Niger. J'étais invité tout récemment au Niger pour la présentation au président de la République du Niger, la pompe FAPEL.
Avec plus de 2000 pompes vendues en Guinée, plusieurs autres au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone et au Niger, Aguibou a fait un grand pas, mais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De retour de l'abbé, Zakaria Kamara pour VO Afrique.
La lutte contre les djihadistes. L'émissaire onusien pour l'Irak se dit préoccupé par les représailles dont sont victimes les civils de Mossoul, soupçonnés de collaboration avec les militants du groupe État islamique. Les précisions de Michel Joseph.
S'adressant lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, Yann Koubis a fait état d'un soutien populaire croissant à Mossoul en faveur d'une punition collective des familles perçues comme s'étant associées aux djihadistes. Elles sont de plus en plus victimes d'actes d'éviction, de confiscation de leur maison et d'autres mesures de rétorsion, a expliqué l'émissaire onusien pour l'Irak. Yann Koubis a exhorté le premier ministre irakien Haider al-Abadi à agir de toute urgence pour faire cesser ces attaques. Des mesures prises contre des civils sans preuves suffisantes violent la constitution irakienne et les obligations internationales de l'Irak, a-t-il souligné. L'émissaire onusien a par ailleurs appelé à la préservation des preuves des crimes commis par les militants islamistes aux fins de possibles poursuites judiciaires.
L'Égypte a annoncé qu'elle mettrait fin cette semaine aux visas à l'arrivée pour les citoyens du Qatar, accusés par le Caire et d'autres pays arabes de soutenir le terrorisme. Cette mesure, qui prendra un effet jeudi, ne s'appliquera pas aux conjoints des Égyptiens ni aux étudiants qui auront droit à un visa touristique à leur arrivée sur le territoire, a indiqué le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.